France Musique.
Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Versus, votre nouveau rendez-vous où l'on écoute la musique contemporaine autrement, les dimanches de juillet de 13h à 14h sur France Musique. Le principe est simple. Prenez un compositeur d'aujourd'hui, que l'on n'a peut-être pas forcément l'habitude d'écouter, et qui par là nous impressionne un peu, car on n'y connaît pas grand-chose. Prenez un compositeur du passé, qui n'a clairement plus mal aux dents depuis un moment, et lui, pour le coup, on le connaît bien, et on l'entend même souvent au disque ou en concert. Alors, et si on faisait des matchs, des duels musicaux? En vérité, ce n'est pas l'affrontement qui sera intéressant, mais plutôt d'entendre les deux univers se répondre l'un dans l'autre, s'éclairer mutuellement, et nous fera peut-être entendre la musique d'aujourd'hui sous un jour nouveau. Ça vous dit? On y va? Aujourd'hui, ce sont deux matchs autour de la musique française qui nous attendent. Round 1. Pierre Boulez, 1925-2016, versus Claude Debussy, 1862-1918. Quand on pense Debussy, instinctivement, on pense piano. Un peu comme lorsque l'on dit Haydn, on entend une symphonie, Mozart un opéra et Bach une fugue. Et ce que l'on ne sait peut-être pas, c'est que Debussy, comme Boulez, était de formidables pianistes. Peu de traces de leur talent de ce côté-là. Mais en cherchant bien... Écoutons la brève première notation de Pierre Boulez par Pierre Boulez et un court extrait de Péléas et Mélisande de Debussy par Debussy. Malgré la durée très courte de ces deux extraits, on s'en rend compte, le piano de Boulez et celui de Debussy partagent pas mal de choses, des médiums prépondérants, une importance donnée à la résonance, deux éléments clés de leur style respectif. Comme les extraits que l'on vient d'entendre sont très courts, disons qu'on en prend pour quelques minutes de plus, ce qu'a vu le vent d'ouest et une page d'éphéméride.
Thank you.
Au travers de leurs pianos respectifs, on réalise également que les deux compositeurs sont les créateurs d'un monde de l'illusion, du trompe-l'œil sonore. Boulez et Debussy partagent en effet le goût des couleurs et des miroitements. Et quoi de mieux pour exprimer cette richesse de timbre que l'énorme machine qu'est l'orchestre symphonique? Écoutez comment peuvent entrer en résonance, c'est le cas de le dire, le début de jeu avec la notation 7 dans sa version orchestrale. Teinte moirée, subtile, et une orchestration tellement parfumée et scintillante qu'elle en devient aveuglément capiteuse. Debussy écrit par petites touches, comme des aplats de couleurs brefs, qui sont autant de courts fragments, des mélodies interrompues, mais des mélodies quand même. Et mine de rien, la mélodie, le lyrisme, ne quittent ni les musiques de Debussy, ni celles de Boulez. Quel meilleur moyen de porter une mélodie que de la chanter ? Vous aimez la voix ? Ça tombe bien, nous aussi. Réécoutons un petit extrait de Pélias et Mélisande, le seul opéra achevé de Debussy, en regard de la première improvisation sur Mallarmé, tirée de l'immense pli selon pli de Boulez. Dans les deux extraits, l'orchestre soutient, commente et colore la voix. Et presque paradoxalement, la musique la plus chantante et la plus facile avec tous les guillemets du monde n'est peut-être pas chez qui l'on croit. Autre pôle commun aux deux compositeurs, plus extérieur que purement musical celui-ci, c'est une volonté somme toute assez régulière de rendre hommage, de s'inscrire dans une tradition, une filiation, voire carrément dans un héritage. Debussy avait la musique française au cœur, et pas uniquement par un patriotisme rance dicté par son époque. La redécouverte du XVIIIe siècle et de la musique de Jean-Philippe Rameau, par exemple, a été essentielle à la construction de son langage. Il le fait clairement entendre dans son premier livre d'images, avec un hommage à Rameau, pur et à l'élégance diaphane. Quant à Pierre Boulez, il publie en 1972 dans la revue anglaise Tempo une courte pièce pour flûte et cordes, écrite à la suite du décès d'Igor Stravinsky l'année précédente. Afin d'évoquer Igor Stravinsky, de conjurer son absence, écrit-il en tête de la partition de son mémorial. La forme même de l'œuvre, par ses courtes sections cloisonnées aux sautes d'humeur régulières, n'est pas sans évoquer les symphonies d'instruments avant du compositeur russe, qu'il avait lui-même dédiées à Debussy. La flûte de Guy Eshed, le West Eastern Divan Orchestra, dirigé par le grand Daniel Barenboim, dans le mémorial pour flûte et petit ensemble de Pierre Boulez, qui clôturait notre premier duel musical du jour dans ce premier numéro de Versus sur France Musique. Deuxième round. Maurice Ravel, 1875-1937. Versus Gérard Pesson, né en 1958. Raffinement, élégance, distinction, une certaine forme de perfection technique et émotionnelle. C'est à cela qu'on pense en premier lorsqu'apparaît le nom de Maurice Ravel. On s'en rend compte ici avec le final de son trio avec piano, dont on ne se lasse pas de goûter les harmonies suaves, les mélanges de timbres graciles et les mélodies efficaces. Cette science de l'élégance, Ravel la partage à l'évidence avec Gérard Pesson, qui voit d'ailleurs dans son grand aîné un frère en musique, un refoulé. Pesson n'a que 33 ans en 1991, lorsqu'il compose son œuvre pour ensemble, Le gel par jeu. On retrouve le même raffinement des timbres que dans la musique de Maurice Ravel, mais aidé par des modes de jeu fantomatiques qui donnent l'impression d'entendre une musique en négatif. Le gel par jeu de Gérard Pesson était, de manière cryptée, un souvenir de la poésie d'Emily Dickinson. Et comme Debussy et Boulez appréciaient les hommages, Pesson partage avec Ravel ce goût d'une musique non pas en hommage, mais véritablement mémoire et souvenir. Pesson aime reprendre des œuvres du passé et les filtrer, comme les regarder en négatif, les effacer de l'intérieur, au travers d'un prisme d'éther déformant. Ravel, lui, souffle un vent de modernité sur des formes anciennes. Une pavane dans Mamerlois, ou une forlane dans le tombeau de Couperin, une œuvre elle-même en forme de stèle à ses amis tombés au combat dans les tranchées de la Première Guerre mondiale. Mais plus largement, un hommage doux-amer à la musique baroque. Disons en somme que Ravel réinvente l'esprit et Pesson efface la lettre. Héritier du passé, mais aussi bien ancré dans le présent. Quel meilleur biais vers le monde contemporain que la littérature et la poésie. Tant Ravel que Pesson adorent les mots, sous toutes leurs formes. Ravel, grand lecteur de Mallarmé et Paul Morand. Pesson, dandy amateur de Proust, Marie Rodonat et Philippe Beck. Ce goût pour la poésie, pour la vibration originelle des mots, traverse le catalogue entier de l'un comme de l'autre et les font aboutir à certaines de leurs plus touchantes réalisations. Du soupir de Stéphane Mallarmé, qui guide la musique de Ravel, au poème inédit Jachère et dents de Mathionius, écrit spécialement pour la cantate éponyme de Pesson, Il n'y a qu'un pas.
Thank you. sont féroces.
Musique ludique, bondissante que ce jachère aidant, tiré du cycle Cantate égale pays de Gérard Pesson, qui nous conduit directement vers notre dernier thème du jour. Si l'on a déjà visité la maison de Maurice Ravel à Montfort-l'Amaury dans les Yvelines, on se rend compte en moins de temps qu'il ne faut pour dire Boléro de la passion du compositeur pour l'enfance, les jeux et les mécanismes. Toutes ces petites horlogeries à la tendresse ineffable. Gérard Pesson partage cet intérêt, ce goût pour un second degré ironique, allant d'une douce élégance à un humour clairement assumé, voire franchement tordant. Écoutez ce petit mécanisme, ce petit jeu, cet origami Chopin réalisé par Pesson. Pour reprendre les mots de Boulez, il plie selon plie littéralement deux préludes de Chopin l'un sur l'autre, entre boîte à musique et Rubik's Cube.
Thank you.
En 2016, Gérard Pesson signe 5 miniatures spécialement pour France Musique à destination de l'émission à l'abrévé Création Mondiale présentée par Anne Montaron. Solitaire Mikado, 5 images ludiques et solitaires pour voix et piano. Avec des sons électroniques volontairement cheap, un métronome dans la première pièce ou un hibo dans la dernière, il réinvente l'univers sensible d'un Ravel dans L'Enfant et les Sortilèges. Et si cette candeur enfantine, gracieuse, cachait en réalité parmi les musiques les plus denses et touchantes des deux compositeurs.
Signore, spremi bene, gira, e presso, riducimi
in fibretta,
canga lieve, scorza e corteccia, bugia, soffiata in aria, fammi bucciare di me, toglimi liquido, liquido e verità. Toglimi via di mezzo, ma versa, versa tutto il resto. Que j'aille cacher ma honte, sonne le siège. Moi, qui sonne de tous ces heures, heure de dormir, heure de veiller, heure qui ramène celui qu'on attend. Heure pénible, naquive, méchant encore. Peut-être que, s'il ne m'eût mutilé, rien n'aurait jamais changé dans cette demeure. Peut-être qu'aucun n'y fut jamais mort. Si j'avais pu continuer de sonner toutes pareilles les unes aux autres, les heures. Laissez-moi cacher ma honte et ma douleur, ne m'écoutez-le plus. Ding, 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 ding.
Thank you.
d'accord. L'accord est une virtualité de toute hauteur. Comme l'ennui. L'attente de toute sensation. Il interprète chacune ailleurs. Derrière la mélodie
dérivant, dérivée, samplée,
qu'il sonne étrangement si l'on fond. Alors l'on sent que l'enthousiasme, non plus que le dégoût, le bel ensemble de tout ce que l'on semble sont de mise. Constant désaccord avec rien. Ce rien qui, après tout, existe. Et sort de tout indemne.
La voix de Vincent Bouchot, le piano de Denis Chouillet, dans la dernière miniature de Solitaire Mikado de Gérard Pesson, que l'on écoutait en regard de deux extraits de L'Enfant et les Sortilèges de Maurice Ravel, par le London Symphony Orchestra, dirigé par André Prévin. Toutes les références des enregistrements utilisés sont bien sûr disponibles sur la page de l'émission sur le site francemusique.fr. C'était le premier numéro de Versus, prise de son et mixage Claude Niort, une émission préparée par Pauline Boisaubert, une réalisation de Claire Lagarde. À la semaine prochaine.
À réécouter sur francemusique.fr.